Podcast RTBF Sport. Complètement foot. Complètement foot. Spécial Jupiler Pro League.
Nous poursuivons donc le débriefing de ces différentes rencontres de play-off, de play-down aussi. On reviendra dans quelques minutes sur cette victoire du Sporting de Charleroi. Je vous la rappelle, 1-0 contre la SEPN avec cette victoire aussi un peu plus tôt du RWDM à Courtrai. Score final 2-4. Les Carolos gardent ses 6 points d'avance donc sur le deuxième. Pour l'instant, le Sporting de Charleroi se maintient. Le RWDM barragiste. On évoquera cela aussi donc dans la suite de ce complètement foot. On poursuit le débriefing de ces matchs en Champions Playoff. Union Saint-Gilloise, Club de Bruges, avec Clément Tamon, notre consultant, avec Alexandre Boucaud, notre arbitre RTBF Sport présent aussi. On enchaîne dans ce débriefing arbitrage sur les deux jaunes donnés à Hugo Wuettlesen. Votre avis, Alex, sur ces deux cartes et donc l'exclusion qui s'en est suivie.
Bah oui, la première, en fait, elle était pas très visible en live et je suis vite allé voir sur le téléphone s'il l'avait bien donné parce qu'il avait laissé un très bel avantage suite à cette faute et en effet, il est revenu sur la faute initiale et il lui a donné la jaune. Donc, c'était une vraie jaune méritée. Et puis la deuxième, bah, c'est un pied qui est très très haut avec les studs qui vont se frotter sur la poitrine de l'adversaire. Donc c'est, je prends toujours la formule du 1+1. Hein, pour avoir une exclusion, il faut deux vraies cartes jaunes bien justifiées. C'était bien le cas, donc c'est une exclusion tout à fait correcte.
Dès la 65e minute, le club de Bruges réduit à 10. Pardon. Le club de Bruges réduit à 10. Clément Tamon, avons-nous vu la différence et que l'Union Saint-Gilloise était à 11 contre 10? Évidemment, voyez où je veux en venir.
Ouais.
Malgré ça, 10 contre 11, le club de Bruges s'impose. Votre avis sur cette deuxième partie de match après l'exclusion?
Non, je pense que l'Union n'a pas su, en tout cas, prendre le dessus sur cette supériorité numérique. Bruges aussi a très bien géré son infériorité numérique. C'est ce qui lui a permis aussi d'ailleurs d'obtenir le fameux corner qui les fait mener 2-0 à l'Union. L'Union n'a pas été capable, je parlais tout à l'heure de l'intensité, ils l'ont mis à certaines périodes de la rencontre. Et là où on aurait pensé qu'à 11 contre 10, voilà, ils seraient montés en puissance, ils ont au contraire été un peu plus statiques, un peu moins en mouvement, un peu plus lourds dans leur mouvement, dans leur situation. Et puis au final, en face, t'as quand même des joueurs qui sont très malins, qui savent bien se déplacer dans les espaces de jeu, dans les intervalles, et qui ont réussi, malgré leur infériorité numérique, à très bien se positionner, puis à prendre le dessus. Tu sais, on dit souvent, on joue peut-être mieux des fois à 10 qu'à 11, et c'est encore une fois la preuve, c'est qu'ici, Bruges n'a pas été perturbée plus que ça, comme elle ne l'est pas depuis le début des playoffs. Elle est vraiment en grande maîtrise. Et une fois de plus, l'Union n'a pas su faire la différence dans un événement un peu, je pense, préférentiel pour eux, c'est-à-dire d'être un joueur de plus. Tu as forcément peut-être l'opportunité de faire des changements différents que Blessine a pu réaliser, mais ça n'a pas été en tout cas un gage de réussite pour eux. Ils n'ont pas réussi à faire avoir ce plus de création.
Autre réaction interview, celle de Loïc Lapoussin à l'issue de ce match. Là aussi une interview officielle Pro League.
Tout d'abord, il n'y a pas de honte. Hein. Faut qu'on perd ou qu'on gagne, on a toujours la tête haute. Pas peur de dire les choses. Aujourd'hui, on n'est pas toujours rentré comme il faut dans ces playoffs et ça s'est encore prouvé aujourd'hui, le vent est contre nous, mais bon, il va falloir répondre présent au prochain match.
Qu'est-ce qui se passe? C'est la poisse, c'est les têtes, c'est le jeu, c'est quoi?
Ah, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas vous dire. En tout cas, c'est vrai que tout est contre nous aujourd'hui. Après, il faut relever la tête et comme on dit, il faut poser les couilles sur la table et affronter ça et essayer de changer la donne.
Voilà, faut poser les couilles sur la table. Je me permets de les répéter. 22h06, on est dans la dernière heure de complètement
fou. Ça
c'est souvent la meilleure. On a quand même l'impression que dans ces interviews d'après-match, mais forcément 0/12, on a dit 4 défaites d'affilée dans ces play-offs 1. C'est la même chose qui revient sur la table justement. Enfin, pas tout à fait celle dont parle Loïc Lapoussin. On essaye encore de se convaincre soi-même qu'il faut réagir du côté de l'Union. On comprend pas, Clément. Je pose la question différemment. Qu'est-ce qui se passe à l'Union? Qu'est-ce qui se passe à l'Union?
Pour les propos en tout cas de Loïc Lapoussin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça, c'est certain. Quand tu es dans une dynamique aussi négative, c'est très difficile de remonter la pente et de trouver des solutions. Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est que je les ai trouvés maîtres de leur sujet dans toute la phase régulière. Jamais perturbés. Même quand ils étaient menés, tu sentais qu'ils avaient une force de caractère qui leur permettait de bouleverser, de bousculer la rencontre et de l'emporter. Alors qu'ici, je les sens fragiles émotionnellement, je les sens fragiles dans le caractère. On a vu, Alex nous a parlé tout à l'heure de Burgess sur la touche, mais au final, c'est quoi ? C'est un pétage de plomb, hein, caractérisé, parce qu'il n'est pas maître de ses émotions ni des événements, et il a le sentiment, peut-être comme l'ensemble du collectif, de perdre le fil. Et c'est ce qui se passe.
À pratiquement chacune de ces rencontres perdues, il y a eu un fait de match aussi. Hein. Vous parlez de Burgess,
il y a eu
la semaine dernière, Maurice la fois précédente, Maurice cette fois-ci.
Il y a eu des faits de match, il y a aussi le fait que l'adversaire sur ses premières opportunités a concrétisé par un but aussi, donc ça les met dans des situations où ils sont menés au score, alors que là où ils étaient performants dans la concrétisation, ils le sont un peu moins, et beaucoup moins même dans ces playoffs, ils n'arrivent pas à marquer, ils n'arrivent plus à avoir ce coup de rein nécessaire. On parlait tout à l'heure d'Amoura, on sent qu'il a encore ce peps de vitesse, mais on sent un peu émoussé. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ben oui, l'Union, malgré toutes les qualités qu'ils ont, n'arrive pas à créer autant de chances qu'ils en avaient auparavant. Et même s'ils en ont, ils n'arrivent pas à les concrétiser. Et en face, ils sont dans des dynamiques différentes, un état de confiance différent. Et c'est très difficile, c'est très compliqué.
On va parler du club de Bruges, justement. Juste vous dire, avant d'accueillir Peter-Yann Kalkoun, que l'Union Saint-Gilloise jouera deux fois l'Antwerp dans une répétition générale de la finale de coupe, hein, puisqu'on joue cette semaine, attention, on enchaîne directement avec le cinquième rendez-vous dans ces Champions Playoff, et Europe Playoff d'ailleurs aussi. Donc ce sera jeudi, un déplacement pour l'Union Saint-Gilloise à l'Antwerp. Et puis le week-end prochain, l'Union Saint-Gilloise contre ces mêmes Anversois, à quelques heures, quelques jours, le 9 mai, donc jeudi de l'ascension de cette finale de Coupe de Belgique. Peter-Yann Kalkoun, journaliste de Newsblatt, vous le savez, qui fait partie de l'équipe de Complètement Foot, nous rejoint en direct. Salut PJ.
Salut les amis.
On est ici en studio avec Clément Tamon, notre consultant, avec Alexandre Boucon, arbitre RTBF Sport. PJ, où êtes-vous ? Ça résonne là. Vous êtes dans la salle de presse encore ? Comment ça se passe ? Expliquez-nous d'abord.
Oui, je suis toujours dans la salle de presse et je suis un peu gêné parce qu'il y a encore des collègues qui sont en train de bosser. Moi, j'ai quitté le travail évidemment parce que Complètement Foot était plus important, mais je dois faire gaffe que les collègues ne soient pas fâchés sur moi.
D'accord, si vous faites pas trop de bruit, donc on va parler pas trop fort. Et j'espère que Complètement Foot fait partie quand même de votre travail. Hein. PJ, dites-leur à eux, petit clin d'œil. PJ, votre avis sur ce match en un seul mot, Complètement Foot. Ce match Union Saint-Gilloise, Club de Bruges, score final 1-2 pour vous, c'était
décevant quand même.
Pourquoi?
C'était pas le vrai club de Bruges. Ils avaient l'air un tout petit peu fatigués. Ce que Hayen a dit aussi après le match, il a dit que c'était pas notre meilleure performance, ce qui était logique après le déplacement assez chaud au PAOK. Et puis, je trouve que l'Union était pas à nouveau à leur niveau qu'il faut dans les playoffs. Donc, si je compare avec le match d'hier, le niveau que Henk avait, bon, les deux clubs d'aujourd'hui, c'était pas au même hauteur.
Peter-Yann Kalkoun, journaliste de Newsblatt, qui nous rejoint. On l'a déjà évoqué, évidemment, vous en doutez, PJ, cette phase dont tout le monde va parler, va reparler, ce dégagement d'Anthony Maurice, contré par Vetlesen et Butz. Votre avis sur cette phase et sur ce but? Valable
pour
ou pas?
Moi, il y a Butz. Valable, oui. J'en ai marre aussi un tout petit peu que les gardiens sont toujours défendus. Quand ils sont touchés un tout petit peu dans les 16 mètres, il y a déjà faute. Ça m'énerve parce que en 80%, il n'y a pas faute. Et maintenant, je suis content que l'arbitre a montré les couilles en disant que c'était valable. Bon, c'était beaucoup plus facile d'annuler le but, mais il n'a pas fait, donc pour moi c'était une décision correcte.
Et Alexandre Boucaud nous a rappelé donc la loi du jeu qui confirme la validité de ce but. Décidément, il y a un mot, qu'il faudrait répéter plusieurs fois dans cette dernière heure de Complètement Foot. On l'a bien compris. Quelle semaine pour le club de Bruges, PJ. Quelle semaine pour Hayen. Votre avis sur ces deux rencontres en parallèle. D'abord, revenir sur cette qualification en déplacement jeudi pour les demi-finales de la Conference League. Vous y étiez.
Oui, c'est historique. Hein. Et surtout la façon comment ils ont pu se qualifier, c'est vraiment impressionnant, avec beaucoup de maturité, beaucoup de qualité. Il y avait pas photo, en fait, entre PAOK, quand même, pas une mauvaise équipe, et le club de Bruges. Donc maintenant, ils sont en demi-finale, tu peux espérer, tu peux rêver. Et bon, faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, Bruges était mort. On pensait tout que être deuxième en championnat, ça serait déjà un miracle. Maintenant, ils ont tout en main pour devenir champion. Ils ont tout en main pour aller au final en Conference League. Et pourtant, il y a des joueurs importants qui sont blessés, qui sont pas là. Donc, c'est quand même assez impressionnant ce qu'ils font pour le moment.
Le rôle de Nicky Ayen dans ces résultats, PJ?
Il a apporté de la clarité. Tout est clair pour les joueurs. L'atmosphère est bonne. En général, moi, je suis pas trop pour donner trop de crédit aux entraîneurs, parce que ce sont toujours les joueurs qui font la différence, mais on peut pas nier qu'il y a une grande différence entre l'époque Deira et l'époque Hayen. Et quand même, avec les mêmes joueurs, il a pas eu beaucoup de temps non plus. Donc, faut donner des crédits à lui, en tout cas.
Quelle transformation! En quelques heures, en quelques jours, en quelques matchs, Clément Hamon, pour le club de Bruges.
Ouais, mais ça veut dire aussi que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs. On va tout le temps chercher des entraîneurs étrangers, etc. Même si c'est le club de Bruges, qui est un grand club en Belgique et qui mérite aussi un grand coach, on voit qu'il y a des ressources internes avec énormément de qualité. Quand on le voit prester déjà en tant que coach au Bruges Next, il y avait beaucoup de qualité. Même si c'est dépendant aussi là de la qualité des jeunes joueurs, il y avait quand même une production de jeu qui était très très intéressante pour les avoir affrontés. Et après, il va dans la transition avec un groupe beaucoup plus mature et avec beaucoup plus de qualité, avec beaucoup plus de pression, mais on sent qu'il est capable d'assumer. Et je pense sa simplicité aussi, le fait qu'il vient du club, etc., fait qu'à un moment donné, le contact avec les joueurs passe beaucoup plus facilement. Il redonne de la confiance à tout le groupe. Les joueurs se sentent libérés parce qu'il y a peut-être moins de pression de par le caractère imposant de l'ancien coach, comme était Deila, qui mettait beaucoup de pression, on l'a vu, avec certains joueurs où ça passait moins en termes de feeling. Et là, ça marche, les joueurs retrouvent de la confiance. Bizarrement, quand la tête va, les jambes vont. Voilà, on sent une fraîcheur physique retrouvée et ça marche bien et ça fait des résultats. Et qui l'aurait cru, aujourd'hui, ils sont, comme l'a dit PJ, ils sont aux portes du titre. Il y a un calendrier qui, je pense, s'ils font les choses justes, où ils peuvent figurer tout en haut. Et en tout cas, en conférence aussi, c'est impressionnant ce qu'ils ont été capables de faire.
On reparlera évidemment de ce carré d'as des Champions Playoffs dans un instant. Vous avez lâché le gros mot, pas celui-là, l'autre. Calendrier, faut-il adapter le calendrier pour aider le club de Bruges à aller le plus loin possible en Coupe d'Europe? C'était une des sorties de Bart Verhaegh dès la fin du match jeudi. Peter Yann, votre avis sur cette sortie et votre avis sur le fond de ce dossier?
Bref, tout d'abord, il faut savoir que Bruges, ils sont pas du tout pour les playoffs. Donc, ils sont convaincus qu'il y a trop de matchs dans notre championnat et que les playoffs, ça n'aide pas pour être performant en Europe. Et je pense qu'ils ont raison, parce que Bruges, ils ont déjà maintenant joué 55-56 matchs. C'est un record en Europe. C'est pas normal si tu es club de Bruges et que tu dois jouer autant. Donc là, ils veulent en fait changer le format sans play-off, comme ça. Peut-être jouer cette semaine contre Charleroi et Westerlo et pas contre Union et Genk. Et ça fait quand même une différence.
Donc là, il prêche pour son point de vue évoqué il y a déjà quelques semaines avec vous, PJ. C'est ça, voilà. c'est la suite de ses idées anti-play-off, entre guillemets. En tout cas, modification et réforme.
Effectivement, parce que il sent que maintenant il a aussi l'opportunité de le dire encore une fois, parce que maintenant c'est très concret, c'est très clair que sans les playoffs c'est peut-être plus facile de battre Fiorentina qu'avec les playoffs. Mais bon, les playoffs sont là maintenant. Ils ont posé la question au manager du calendrier. Et ils ont vite reçu la réponse que c'était pas possible de changer le calendrier. Il y aurait pas moyen d'avancer ou de retarder des matchs. Donc, ils vont devoir le faire avec ce qu'ils ont. Et, mais bon, tu m'as posé la question, pourquoi il joue pas le samedi contre Genk?
Oui.
Je me suis renseigné. Je ne trouve pas de réponse pour cela.
Moi non
je
plus.
Je pense qu'ils n'ont pas eux-mêmes, mais bon. Je pense que. Oui.
Non, petite précision. Donc voilà, je rappelle pour la sixième journée, il y avait Genk Club de Bruges le 28 avril. Voilà, je me posais la question. J'ai posé la question à PJ. On se posait la question ici en off de savoir pourquoi éventuellement on pouvait pas avancer cette rencontre et donc donner une journée de plus de repos par rapport à ces matchs de demi-finale de Conference League en sachant que le Club de Bruges va jouer ce mercredi 24 avril. Donc voilà, bref, je me posais la question. Il y a sans doute là, à mon avis, un événement du côté de la ville brugeoise ou d'organisation de police qui en empêche cela. PJ.
C'est pas évident non plus parce qu'ils vont faire le voyage vers Firenze. Ils vont rentrer le vendredi. Ouais. Si tu dois jouer le samedi, c'est pas idéal non plus. Mais bon, là au moins.
Non, c'est avant. La sixième journée, PJ, elle est avant la demi-finale.
Ah oui, c'est avant.
Voilà, c'est ça. C'est avant la demi-finale qui est le 2 mai. Donc voilà, on n'aura pas de réponse à cette question. On a beaucoup parlé d'un duel, d'un mano à mano, entre évidemment les deux clubs bruxellois. On se retrouve avec un carré d'as en 4 points. Le titre va se jouer finalement entre 4 équipes, la magie ou les défauts des playoffs, c'est selon les points de vue. PJ, votre avis sur et comme ça on enchaîne dans la suite de ces Champions Playoffs. Cette victoire du Racing Genk hier contre le Sporting Anderlecht, 2-1, votre avis sur cette rencontre, PJ?
Oui, c'était très mérité pour moi, malgré le fait que pour moi le penalty c'est logique, c'est correct, c'est cohérent vu de la saison. Mais moi, j'ai pas trop aimé le penalty pour être honnête. Mais à la fin, je pense que la victoire était très très méritée pour Genk. La différence était grande et je pense que Anderlecht, mais je l'ai déjà dit dans le passé aussi, ils doivent lever leur niveau pour pouvoir être champion dans ces playoffs. Surtout maintenant, tu as 4 équipes qui sont capables de devenir champion. Bon, si tu veux être champion, il va falloir faire une série ou élever ton niveau, en tout cas. Donc, non, pour moi, la victoire était méritée.
Peter Yann Kalkoud, journaliste Newsblatt. Votre avis sur cette phase précisément, autre phase dont on va parler, reparler. On a déjà parlé du côté anderlechtois des supporters, des supportrices anderlechtoises. Faute de bras, de mains, de Sardella dans le rectangle, y avait-il pénalty à Alexandre Boucault?
Bah oui. Si on prend la phase et le règlement tel qu'ils existent aujourd'hui, c'est une décision correcte. Dans le sens où Sardella a son bras gauche vraiment collé sur sa poitrine. Donc s'il y avait eu un contact uniquement avec ce bras-là, le VAR serait intervenu à coup sûr pour annuler. Mais il a son bras droit qui est écarté et on voit bien avec la caméra arrière-gaule que la balle va frapper sa main et sa main, due à l'impact, va partir en arrière. Et là, à ce moment-là, on a un ballon qui va droit au but avec un bras qui est écarté et qui est plus collé au corps. Donc, par contre, je suis aussi convaincu que l'arbitre a sifflé au feeling, hein, parce que c'est très difficile, ça va très vite, et je pense que comme la main est derrière le corps, c'est très compliqué à voir, donc il a sifflé au feeling, mais voilà, parfois vous devez avoir de la chance, et son feeling lui a donné raison sur ce coup-là. Donc, voilà, et je peux accepter les commentaires, et je pense que je suis sur du velours après le commentaire de Peter Yann, qui pense aussi à un pénalty, même si on n'aime pas ça. Mais ok, les règlements sont faits, et j'aime bien aussi le mot cohérence, uniformité, c'est ça qu'on veut. Et donc voilà, il faut que si ça se passe la semaine prochaine, on prenne la même décision.
Clément Tamon, votre avis sur cette phase?
Pour moi aussi, c'est une faute de main, et je me réfère surtout au feeling arbitre. J'ai eu le sentiment qu'il a décidé extrêmement rapidement la décision parce qu'il était très sûr de lui. Il avait analysé. Quand on regarde bien la situation, il est logiquement dans la ligne de la situation de main et il n'hésite pas une seule seconde. Donc à un moment donné, quand tu n'hésites pas une seule seconde aussi, qu'il a trouvé juste que c'était effectivement une faute de main, je vais pas dire délibérée, mais c'est le règlement, et moi aussi j'ai du mal avec ça, mais ça fait partie aujourd'hui des règles du jeu, et étant donné, comme l'a dit Alex, que son bras, donc c'est son bras droit qui, en tout cas le ballon vient heurter sa main, et on a le sentiment qu'il est un peu plus décollé que le reste du corps. Mais
ça augmente la surface corporelle, simplement.
Et l'aspect délibéré, voilà, c'est la surface corporelle qui augmente, et il prend pas de carte jaune comme ça aurait été le cas jusqu'à il y a un ou deux ans passés, où on disait un shot vers le but, c'est jaune, un centre, une main sur un centre, c'est pas de carte, c'est terminé, il faut qu'il y ait une volonté de me faire une main d'anti-jeu pour prendre la jaune, c'est pas le cas ici, on est d'accord, mais il agrandit sa surface corporelle, et donc voilà, c'est une faute, sans carte jaune, c'est pénalty.
Monsieur Lardot, qui était aussi sifflé pour ce match, aurait sans doute dû donner un carton jaune aussi à Yann Vertonghen pour cette petite faute à la limite, voire en dehors du terrain, sur le côté.
Je pense, oui, parce que là on est dehors du terrain et on peut provoquer avec ça beaucoup d'irritation chez l'adversaire, c'est une faute de frustration. Il n'y a pas de violence qui justifie une carte rouge évidemment, mais c'est une carte jaune pour moi claire qui aurait dû être donnée.
Complètement foot, le débriefing donc de cette rencontre Genk-Anderlecht avec Alexandre Boucou, notre arbitre RTBF Sport, Clément Tamon, carton de chez PJ.
Ouais, dans ce cas-là, pourquoi il ne la donne pas alors ? Est-ce que tu as, par expérience, le sentiment que quand même certains joueurs, de par leur stature, sont plus ou moins protégés, ou en tout cas passent à travers certaines gouttes que d'autres joueurs ne peuvent pas traverser ?
Bah, je pense que si on prend, et j'ai envie de dire malheureusement, si on prend la situation après championnat, il y a des noms qui reviennent régulièrement. On a Vertonghen qui revient régulièrement, on a Vincent Janssen qui revient régulièrement sur la table. Voilà, donc, mais ça ne devrait pas jouer. Au contraire, ce serait une manière aussi de dire bon ben voilà, j'ose, j'ai pas peur, et tout le monde est jugé de la même manière. Et voilà, hier typiquement, ça aurait dû être puni.
Oui. Racing Genk donc qui a battu le Sporting Anderlecht hier 2-1. On se retrouve donc à 4 points entre les 4 premiers. PJ, que penser de ces derniers résultats ? On va enchaîner donc tout de suite avec une nouvelle journée de play-off cette semaine, en Champions Play-off entre autres. Du côté Anderlechtois, je voulais vous entendre, PJ. Brian Riemer a clairement dit que pour lui c'était pas penalty, mais il a plutôt mis en cause la performance de ses joueurs, surtout sur la première demi-heure. Votre avis ?
Il a bien raison de le faire. Et il aurait dû le faire beaucoup plus avant. C'est depuis des semaines que c'est pas assez en Anderlecht. Ils ont eu des moments bien, des bons moments pendant les playoffs, mais en général, c'était pas assez. Et moi, je trouve, par exemple, que Dolberg, en général, il fait pas des bons matchs. Il peut toujours jouer. Dreyer, il fait à nouveau un superbe but. Et je vais pas l'attaquer parce que ses statistiques sont phénoménales, mais en général, je trouve qu'il apporte pas beaucoup dans l'entrejeu. Il y a d'autres joueurs aussi qui ont des hauts et des bas, et plus de bas que des hauts. Donc, je pense vraiment que Anderlecht doit, comme j'ai dit, doit relever leur niveau pour pouvoir devenir champion, parce que c'est pas, tu dois pas penser que tu vas prendre des points ou continuer à prendre des points sans être top si tu vois comment les autres jouent pour le moment dans les playoffs. Même Union, c'est pas hyper mauvais, par exemple. Donc, je pense qu'Anderlecht va devoir lever son niveau.
Peter-Yann Kalkoun, journaliste de Newsblatt, Alexandre Boucou. J'adore passer la soirée à regarder un classico Barça-Real avec Alexandre Boucou, parce que dès que je lève un œil, il me fait non. Donc voilà, bientôt une heure de jeu, toujours un but partout. Clément Tamon est là aussi, évidemment. Courte interview, extrait d'interview de Mario Stoïkens à l'issue de ce match et cette défaite d'Anderlecht, donc à Genk hier. On l'écoute.
Dans les playoffs, les deux matchs qu'on a joués à l'extérieur, comme aujourd'hui, on n'a pas su gagner. La dernière semaine contre Bruges, on savait c'était juste, on s'est fait manger au niveau de l'intensité. Aujourd'hui, je pense que, comme j'ai dit, en première mi-temps, on loupe notre première mi-temps, mais je crois en deuxième mi-temps, on commence un peu à revenir, on les met un peu sous pression. C'est pas notre meilleur jeu, mais tu vois qu'avec un peu plus d'intensité, un peu plus de pression vers l'avant, que tu as des occasions, on met un ballon sur les poteaux, on a un corner de Fédé qui la met juste au-dessus, et puis Dreyer aussi met le but qui fait le 1-1. Et comme j'ai dit, on a loupé cette première mi-temps, et c'est très dur de revenir contre une bonne équipe dans ces playoffs.
Le Sporting Anderlecht à domicile ou à l'extérieur, ce n'est pas la même chose. Deux victoires sur les quatre à domicile. Donc voilà, une victoire, une défaite, une victoire, une défaite dans cette Champions Playoff. Et chaque fois, la maison pour les trois points pris. PJ, une explication à ça? À part jouer face à ses supporters, évidemment, et l'importance de jouer à domicile. Mais comment l'expliquer dans le déroulement de ces quatre premières journées de Champions Playoff, selon vous, PJ?
Pour une fois, j'ai pas d'explication, en fait. Parce que je trouve, dans les playoffs, les différences sont si petites que jouer à domicile ou à l'extérieur, ça ne devrait pas changer beaucoup. Bon, c'est toujours un avantage si toi, t'es supporté devant derrière toi, mais pour dire que Anderlecht ne peut pas aller gagner à Genk ou Anderlecht ne peut pas aller gagner à Antwerp, par exemple, maintenant, bon, je pense que ça devrait être possible. Si tu es à ton niveau, qu'il faut.
Oui, parce que c'est plutôt pour les adversaires que ça fait la différence, Clément, parce qu'aller jouer à Genk, aller jouer au club de Bruges, les deux équipes qui sont en forme, évidemment, dans ces Champions Playoffs, c'est plutôt ça qui fait la différence que de jouer à domicile ou à l'extérieur, sans doute, Clément. Ou aucun avis là-dessus. Vous pouvez me dire, faux débat, on passe...
Non, mais je pense que c'est un faux débat, puisque quand on regarde le parcours d'Anderlecht sur la saison régulière à l'extérieur, ils sont deuxièmes, avec 27 points. Ils sont devant Genk, ils sont devant Bruges, donc... Ils ont su gérer ce genre de situation et de parcours à l'extérieur. C'est juste qu'ici, oui, peut-être, en termes de timing, ils affrontent à l'extérieur des équipes qui sont dans une forte dynamique. Genk, en ce moment, c'est très très fort. Très très fort, vraiment. PJ nous l'a dit tout à l'heure, la victoire est largement méritée. Il y a des joueurs qui sont en train de, je vais pas dire surperformer, parce qu'ils ont d'énormes qualités, mais ils arrivent à un niveau de performance qui correspond à leur qualité. El Ouadi, Aitelaj, il sort de nulle part. Voilà, il fait.
Enfin, les mauvaises langues vous rappelleront qu'il sort d'Anderlecht, justement.
Ouais, ouais, enfin, mais,
forcément.
Mais je veux dire, de par son parcours de cette saison, il a une dynamique incroyable. Ouais. El Kanous aussi, Galarza, c'est très, très fort. Donc, c'est très costaud. Dans la production de jeu, c'est très dynamique. Il y a beaucoup de tempo, il y a beaucoup de rythme, il y a beaucoup de variété. Ça met beaucoup d'intensité, de transition. Je trouve ça très fort. Et puis Vranken, j'ai parlé avec lui la semaine passée quand j'étais joué à Yongek. Et puis, il me parlait du fameux changement de système. J'ai été moi-même surpris qu'il ait changé de système parce que c'est logiquement quelqu'un qui reste sur ses principes. Et même lui a été plus ou moins surpris du changement et que ça ait fonctionné. Et ça fonctionne très bien, hein. Passer à trois derrière et puis avec des pistons sur les côtés qui sont dans la verticalité hyper impressionnant, ça mène beaucoup de dangers. Tolu qui devant aussi commence à être imposant, à avoir de la qualité et puis à bien finir la situation. Je pense qu'ici, la double confrontation face au club de Bruges...
J'allais y venir, je vous laissais terminer.
...sera pour moi l'équipe qui sortira, je pense, ce vainqueur de cette double confrontation. S'ouvrira une grande, grande porte pour la route vers le titre.
Parce que domicile extérieur pour le débat Sporting Anderlecht, ce sera le Cercle de Bruges deux fois, d'abord à la maison et puis à l'extérieur. Et du côté du Racing de Genk, ben vous l'avez dit Clément, il y a cette double confrontation, d'abord au club de Bruges et puis ensuite à domicile contre le club de Bruges. Donc sans doute une semaine décisive dans la lutte pour le titre. Peter Yann, j'ai une dernière question pour vous parce que j'ai vu passer ça sur les réseaux sociaux et on en a beaucoup parlé aussi du côté néerlandophone, j'en suis sûr. La petite danse de Wouter Vranken, c'était quoi ça? C'était une imitation de Brian Riemer ou pas du tout?
Je me suis posé la question aussi. En tout cas, il a plus de rythme que moi. moi, je n'aurais pas pu le faire. Non, je pense qu'il était tout simplement tellement heureux qu'il a fêté. Et peut-être qu'il a voulu donner un petit pic, ça se dit comme ça en français,
ouais.
Envers Brian Riemer. Et tu peux le faire, je pense, dans les playoffs. C'était pas agressif. C'était juste pour
chambrer.
Faire plaisir aux gens un petit peu. Voilà. Donc, je peux rigoler avec, en tout cas.
Peter Yann, dernière question, je vais vous laisser filer. On va prendre congé aussi d'Alexandre Boucaud. Christian Burgess, en interview officielle d'Azone. Je suis pas encore su déterminer à distance si c'était du côté néerlandophone, du côté francophone. En tout cas, c'était en anglais dans le texte de toute façon. Bien sûr, l'arbitre approuve le but. C'est le club de Bruges. Donc Christian Burgess, qui est en interview d'après-match, qui a réagi donc suite à ce dégagement d'Anthony Morris contré par Vetlesen dans son propre but. Voilà, laisser planer le doute concernant l'impartialité de l'arbitrage dans cette rencontre. C'est ce qui a circulé aussi après ce match, vous qui étiez et qui êtes là-bas toujours. Peter Yann, votre avis?
Oui, on a entendu, on a noté ce qu'il a dit, mais bon, je pense qu'il devient temps que Burgess se focalise sur le foot et sur son propre niveau. Et ça serait mieux, je pense, de voir des complots ou autre chose. Je pense que non. Ça devient temps que Burgess joue au foot à nouveau. Ça serait temps pour tout le monde.
Ouais, je pense que tout le monde est d'accord ici autour de la table. Je ne connais pas complètement les règles. En plus, il l'avoue, mais je ne pense pas que ce garçon voulait bloquer le ballon et il était trop près. Bien sûr, l'arbitre approuve ce but car c'est le club de Bruges.
Si j'étais le parquet, j'interviens.
Voilà, j'allais vous poser la question. En mode conclusion, Alexandre Boucaud, il y aura des suites certainement.
Je ne sais pas, mais c'est le genre de commentaires qu'il faut bloquer et pour arrêter les polémiques. Et en effet, il y a intérêt à se concentrer sur son football.
Que le coach lui-même de l'Union Saint-Gilloise, et on l'avait tous discuté ici autour de cette table, avait un peu lancé la polémique, même avant qu'il y en ait réellement, en tout cas pour le début de ses playoffs.
On en avait parlé, c'était même pas justifié, parce que si on regardait les dernières semaines, finalement, l'Union, en dehors du match à l'Antwerp, avait très peu à se plaindre de l'arbitrage. Là où pour Anderlecht, il y avait des moments où ils avaient été favorisés, d'autres ils avaient été défavorisés. J'avais repointé notamment le match à Malines, où ils avaient un pénalty qui n'était pas non plus vraiment justifié contre eux, etc. Donc Bruges avait été assez constant et régulier pendant la saison. Donc voilà, c'est dommage et ce serait mieux en effet qu'ils se concentrent sur le foot qu'ils savent très très bien faire quand ils veulent.
Merci beaucoup Peter Yann Kalkoun, journaliste de Newsblatt. On vous laisse filer, on laisse bosser les autres journalistes dans cette salle de presse à l'Union. Alexandre Boucaud, merci de votre présence ici en studio. Vous avez croisé un certain Clément Tamon sur les différentes pelouses en tant qu'arbitre?
Il a 38 ans, j'en ai 43. Donc
oui, c'est bien ce qu'il me semble.
On a évolué ensemble, quelques années.
Alors, l'avis de l'arbitre sur le joueur Clément Tamon, je vous poserai la question dans l'autre sens. Bien sûr, dans un instant.
Écoutez, on arrive à collaborer en toute simplicité et ça restait un joueur très correct, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui était poli, agréable sur le terrain, qui pouvait s'énerver et râler comme tous peuvent le faire, mais c'est vraiment pas mon plus mauvais souvenir.
Et mentalement, votre avis de joueur sur l'arbitre qui était agréable. Alexandre Boucaud.
C'est agréable déjà d'entendre dire ça. Et
oui, c'est juste
entre deux personnes intelligentes, je pense que le contact a été facile à entretenir. Non, mais même pour moi, c'était un bon souvenir d'avoir affronté son arbitrage, d'avoir affronté ses décisions, d'avoir vécu des fois à ses côtés des mouvements de rencontre et des événements de rencontre. Et je pense qu'il a très bien géré en tout cas la carrière d'arbitre qu'il a eue.
Et comme consultant?
Que veux-tu lui reprocher à partir du moment où il connaît chaque loi à la perfection?
Ça aide, évidemment.
Il est performant dans ce qu'on lui demande de faire et on l'a encore vu. Et on l'a vu aussi ce soir, c'est que dans l'analyse de rencontre, il est aussi pointilleux et il sait mettre le doigt où il faut le mettre.
Et donc je redis, Alex, vous avez bien choisi votre week-end pour passer votre dimanche soir avec l'équipe de Complètement Foot. Merci Alexandre Boucaud.
Un grand merci à vous.
On se retrouve évidemment avant la suite et la fin de cette saison en play-off et bien sûr le lundi soir sur le plateau de la tribune avec Benjamin Dessenac et puis le dimanche soir dans ce Complètement Foot que l'on poursuit dans le débriefing entre autres de ces play-downs donc dans les prochaines minutes et puis aussi Christine Schreder qui nous rejoindra avant la suite et la fin de cette émission avant 23h.
Complètement Foot est aussi sur WhatsApp. Envoyez vos messages écrits ou vocaux, mais aussi vos photos et vidéos complètement folles de matchs au 0470 072 023. Complètement Foot. Spécial Jupiler Pro League.
On me rappelle que je suis filmé. Merci en tout cas Alexandre Boucaud pour son passage ici en studio. On poursuit avec Clément Tamon, notre consultant complètement foot. On va évoquer entre autres évidemment aussi les play-downs de cette Pro League. Petit coup d'œil sur les matchs en cours. À l'instant même, le Barça fait 1-2, 70 minutes de jeu donc au Real Madrid. Et puis dans les autres matchs en cours, Monza-Atalanta, évolution du score, c'est 1-2 avec entre autres un but, je vous le rappelle, de Charles de Ketelaar. Et puis le PSG mène toujours 4-1 contre Lyon, avec donc le dernier quart d'heure qui est entamé. On est en train de voir et de revoir cette phase. Il n'y avait pas de hors-jeu, je pense. Et donc 1-2 pour les Catalans chez les Castillans. 1-2 donc pour le Barça au Real. Les play-down, le grand écart de complètement foot. Les play-down avec entre autres aujourd'hui la victoire du Sporting de Charleroi qui s'est imposé, Clément Tamon, 1-0 contre la AS Eupen. Votre avis sur ce match?
Bah c'est bien, ils font le job. Hein. Ils font le job et ils font, je pense, ce qu'on leur demande. Ils sont présents dans la compétition au bon moment. Ils sont efficaces, ils prennent des points. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux me mouiller, mais si à moins d'une véritable enchaînement de contre-performances, je les vois se maintenir. Ils ont 6 points d'avance aujourd'hui, oui, sur le RWDM.
Oui, 3 journées.
Voilà, je pense que c'est la seule équipe qui peut les rejoindre. Le derrière, c'est fini. Ils ne seront plus, en tout cas, officiellement, ils ne peuvent plus être dernier ou avant-dernier. C'est déjà une bonne chose de fait. Maintenant, ils se concentrent, je pense, sur le prochain match à Eupen. S'ils concrétisent bien Eupen, ce sera fait. Et ce sera mérité parce que je trouve que depuis l'arrivée de Rick 2000, il y a une dynamique qui est différente. Il y a un aspect psychologique chez les joueurs qui est différent aussi. On sent qu'il y a une sorte de relâchement qui leur permet d'être performants, de se sentir mieux en jambes et de proposer des choses différentes que sur la fin avec Felice Mazzu. Là, si je peux me permettre une petite aparté, c'est que j'ai moins apprécié le fait qu'on puisse dire avec Rick 2000, je vois des choses qu'on ne voyait pas avant. Ça voudrait dire qu'il manquait des choses avant, alors qu'il ne faut pas oublier non plus le travail qui a été fait par Felice Mazzu. Et c'est plus facile d'arriver et voilà, de changer l'état de fraîcheur et l'état mental des joueurs, surtout dans un événement où il y a une prise de conscience. C'est véritablement la personne qu'il fallait. Il est rigoureux, il est pointilleux. Je sais que dans ses séances d'entraînement, il laisse aucune place aux détails. C'est ce que les Carolo ont besoin, les joueurs ont besoin. Il y a des joueurs qui sont un peu bousculés. On sent des joueurs comme Zorgan, qui retrouve aussi des couleurs sur cette fin de compétition. Heymans aussi.
Buteur aujourd'hui.
Voilà, Bernier qui a du temps de jeu, qui fait aussi des bonnes choses, qui est performant et efficace. Guiagon aussi, qui rentre bien quand il doit rentrer et qui performe bien quand il joue. Donc il y a des choses effectivement qui sont mises en valeur depuis son arrivée, mais c'est aussi une prise de conscience qui leur permet d'être dans cette situation-là. Ne pas oublier tout ce qui a été aussi bien fait avant, je préfère le souligner.
Isaac Mbenza à l'issue de ce match au micro de Pierre Capard.
Victoire méritée, même si 1-0, ben, au vu du match, ça ne reflète pas la réalité du match parce que vous auriez pu gagner beaucoup plus largement.
Très vrai, c'est je pense une des premières fois où quasiment du début à la fin on était au-dessus. Maintenant, ça n'arrive pas souvent, donc je pense que c'est un moment de c'est nouveau aussi, donc même on doit faire mieux parce que vu le niveau de jeu qu'on avait, 1-0 c'est pas suffisant, surtout avec les qualités qu'on a, ben on doit faire beaucoup mieux.
Mais 6 points d'avance sur le RWDM, on peut dire que c'est bien parti, et 11 points d'avance sur Courtrai Open.
C'est très bien parti, maintenant il faut continuer, c'est que 2 matchs, mais voilà, il faut rester prudent, il faut continuer sur notre lancée, pas regarder derrière nous, mais chaque adversaire, faut tout faire pour gagner les matchs comme on a pu faire aujourd'hui.
Maintenant, on sait que vous n'avez pas terminé 3e ou 4e, premier, logiquement, si vous gagnez Open vendredi, c'est fait.
Franchement, statistiquement, je ne peux pas extrêmement vous dire, donc ouais, je pense que ça va être fait, mais voilà, on va essayer de gagner tous les matchs, parce que c'est un objectif personnel qu'on doit avoir, vu les qualités qu'on a, on a encore montré ce soir, donc chaque match, on doit jouer pour gagner, et pas de regarder si on a 2-3 points d'avance, tout ça.
Ouais, 6 points d'avance, donc ça, on l'a dit, on l'a répété, mathématiquement, on doit quand même aussi vous le dire. hier, vous le rappelez, pour le Sporting de Charleroi. Donc, prochain match, vendredi à Eupen. Le match suivant, le cas échéant, pour mettre fin au suspense, le 4 mai, donc, au RWDM. Le RWDM qui a gagné à Courtrai, score final 2-4. Clément Amon, votre avis sur cette victoire molenbeekoise?
Ils ont fait une belle rencontre, ils se sont fait peur à un moment donné parce qu'ils sont rejoints. Ils menaient logiquement 3-0-3 à Courtrai. Courtrai, voilà, ne montrait rien. Et Molenbeek montrait beaucoup de choses. Je trouve que Yannick Ferreira a bien mis la main sur l'effectif. J'estime que s'il avait été là plus tôt, le RWDM n'en serait probablement pas là non plus. La proposition est bonne, les joueurs sont dans une disposition mentale qui leur permet de se connecter les uns aux autres et de montrer qu'effectivement il y a beaucoup de qualité, hein. On voit Mercier qui retrouve du temps de jeu et de l'importance et qui commence à remettre la main sur le jeu de Molenbeek. Il y a eu énormément de situations où ils auraient pu très vite tuer le match et vraiment faire un gros écart de différence en termes de but. Ils l'ont pas fait, ça permet de faire vivre cette équipe de Courtrai et le 2-4 finalement leur permet de définitivement se mettre à l'aise et de continuer à y croire. Ça sera difficile pour eux, mais en tout cas je pense que là aussi ils sont dans des bonnes dispositions pour au moins être à cette antépénultième place.
Ouais, barragiste, donc, ouais, clairement. Barragiste. Courte interview, extrait d'interview, Yannick Ferreira, à l'issue de ce match, on l'écoute.
J'ai pris 10 ans. Non, c'est des matchs très très durs à vivre. Ça partait dans tous les sens. Après 3 minutes, ils peuvent avoir marqué un ou deux buts déjà. Et puis finalement, après 22 minutes, on mène 0-3. On est bien à ce moment-là, on leur remet un coup sur la tête et ils reviennent quand même à 3-1. Et puis on est plus proche en deuxième mi-temps du 4-1 que du 3-1. Finalement c'est 3-2, enfin 2-3. Et puis c'est à la fin c'est juste faire front, plier sans rompre. Et sur la dernière action, sur le but qu'on marque sur le 4-2, on crie tous à notre attaquant, à Gueye, de partir au poteau de corner. Et il fait pas ce qu'on lui dit, il fait un centre et ça transforme en assist et ça les libération. Donc mais c'est des matchs dingues. Hein. Enfin pour le même prix, comme je disais ici en off, ça peut se finir 8-8 quoi. Ici on a la chance que les choses ont tourné en notre faveur cette fois-ci, mais il y a certainement pas mal de choses encore à améliorer, à corriger. Mais ce que je retiens surtout, c'est le courage dont les joueurs ont fait preuve aujourd'hui. Je veux dire, c'était très très dur. Ça partait, ça venait de tous les côtés. Ils attaquaient avec beaucoup de joueurs, beaucoup de centres, beaucoup de ballons dans les 16 mètres. Et ils ont géré cette situation très 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 bien. Il y a eu beaucoup de situations, peut-être penalty, peut-être pas penalty, mais ils ont toujours été solides. Et vraiment un grand grand coup de chapeau aux joueurs pour le calme qu'ils ont gardé dans cette tempête.
Le RWDM donc dans cette position de barragiste. On a évoqué les quatre équipes qui vont jouer les promotion playoffs. Vous voyez le RWDM, Molenbeek, avec Yannick Ferreira dans l'état des choses émergé. Clément, c'est ce que vous nous disiez il y a un instant. Hein.
Sur cette fin de...
Ici, s'ils terminent barragiste juste en dessous des Sporting de Charleroi, ils vont jouer donc contre un de ces quatre-là en promotion playoff.
Ouais, s'ils terminent barragiste et qu'ils restent dans cette dynamique-là de confiance, et de ce que je connais des équipes de Challenger Pro League, même celle qui sortira n'arrivera pas à faire la différence face à RWDM. Après, chaque match a sa vérité. Hein.
C'est la boule de cristal du dimanche soir.
C'est en tout cas sur le papier et sur l'état des lieux, c'est ce qui paraît le plus logique.
C'est complètement fou. On entre dans le dernier quart d'heure de cette émission. On est là en direct jusqu'à 23h. Dans un instant, Christine Schreder qui va nous rejoindre. Elle était justement, elle assistait à ce match Union Saint-Gilloise Club de Bruges. Et puis on évoquera avec elle aussi les prestations de nos Belges et de nos Diables Rouges. Égalisation du Real Madrid. C'est 2-2. Vasquez a fait 2-2 il y a quelques instants. Là aussi, on est entré dans le dernier quart d'heure de ce match. Et je remercie une nouvelle fois Clément Amon pour rester calme face au présentateur de cette émission.
Qu'il
ne reste jamais. C'est impossible. On peut pas demander à la Liga de plus jamais prévoir le match Real Madrid FC Barcelone le dimanche soir quand il y a complètement foot après une semaine de Ligue des Champions où ces deux-là ont eu des dessins différents. Bref, l'Atalanta s'est imposé à Monza, score final 1-2 avec entre autres un but de Charles de Ketelaere. On en reparlera peut-être dans un instant. Suspense. Le Paris Saint-Germain est en train de s'imposer, c'est pas encore tout à fait terminé. 87 minutes de jeu, c'est 4-1 donc contre l'Olympique Lyonnais là pour terminer ce week-end en Ligue 1.
complètement foot. Spécial Jupiler Pro League.
Le dernier quart d'heure de ce complètement foot, donc, avec Clément Hamon à mes côtés en studio. Elle nous rejoint chaque dimanche, ou presque. Christine Schreder est là aussi en direct sur Vivacité. Bonsoir Christine.
Bonsoir David, bonsoir Clément, bonsoir tout le monde.
Salut Christine.
Dans mon canapé.
Dans votre canapé pour regarder Real Madrid-Barça, je parie. Non. Ou nous, regardez-nous forcément.
Regardez-vous.
Merci.
Vous. Et votre boule de cristal, j'ai une question.
Oui.
Est-ce que vous voyez des trucs, je m'emballais dans votre boule de cristal.
En fait, ce qui est génial, c'est que moi, je ne regarde jamais dans la boule de cristal. C'est le plaisir de mon rôle, c'est que je demande aux consultants ou aux autres journalistes de regarder dans leur propre boule de cristal. C'est Pascal Chimay qui a inventé ce concept de la boule de cristal, Christine. Je pense que vous le connaissez bien. Parce qu'il
il y
regardait souvent. Pascal, je profite pour le reféliciter en tant que CIO, première année en tant que CIO, les Framborins se sont maintenus en Challenger Pro League. Petit clin d'œil à Pascal, donc, que l'on embrasse bien fort. Une bonne continuation dans son rôle. Avant de parler des prestations des Belges, des Diables Rouges, Christine, si je suis bien informé, vous avez assisté à ce match Union Saint-Gilloise au Club de Bruges. Votre avis sur cette rencontre et cette victoire brugeoise ?
Mais j'ai entendu beaucoup de ce qui a été dit dans l'émission et je m'accorde sur ce qui a été dit aussi, notamment par PJ. Je pense que l'Union, ben oui, les prestations ne sont pas mauvaises, mais il manque énormément d'ingrédients qui ont donné toute la saveur à leur saison en phase classique. Et que dans les 30 derniers mètres, ils ne trouvent plus la bonne formule, ils ne font plus les bons choix. Parce qu'ils n'ont plus de référence pour le moment, parce que ce qu'ils tentent ne leur réussit pas. Je me souviens qu'en tout début de match, il y a une reprise de volée de Cameron Puertas. Peut-être que ce genre de ballon rentrait il y a quelques mois. Et donc, comme il y a des joueurs qui n'ont pas été à niveau sur les quatre premières rencontres, en tout cas qui n'ont pas pu avoir un collectif qui est à 100%, il y a des petits ratés et ça les irrite sans doute, ou ça les fait... C'est ce qu'on voit souvent dans le foot, c'est qu'on ne pose plus les bons choix parce qu'on veut forcer aussi certaines choses parfois. Ici, de nouveau, il marque sur une phase arrêtée, elle est superbe, le coup franc de Puertas, mais dans le jeu, il ne marque plus. Et c'est pas, ça se commençait déjà à se ressentir vers la fin de la phase classique. Et ça se répète, ils ont une quantité de coups de coin. Je me souviens que quand on les suivait en Coupe d'Europe aussi, en Conference League, ils ont eu beaucoup de possibilités sur coups de coin et ils ne transforment pas. Pourtant, ils ont des gaps pour faire la différence sur coups de coin, par exemple.
Christine Schreder, donc en direct dans ce complètement foot, on a un carré d'as, on a parlé d'un mano à mano, d'un duel de clubs bruxellois, oui. Et maintenant quatre clubs en quatre points, ça vous inspire quoi, Christine ? Les avantages des défauts de ces playoffs, si je peux me permettre.
Voilà. Oui. Mais pour nous qui les suivons et pour un public neutre, évidemment que c'est génial. Je pense que ça fait une promotion aussi pour le football belge et que certains, quand on a envie de prendre plaisir à suivre des rencontres de foot, doivent nous envier parce que c'est clair qu'on a des rencontres de qualité et que parfois, étant en bord de terrain sur certaines rencontres pendant la phase classique, je me dis, oula, aujourd'hui, il n'y a pas eu match, quoi. Parce que pour qu'il y ait match, il faut que deux équipes soient à niveau pour nous offrir un spectacle. Et ici, depuis le début des playoffs, il y a match. Il y a match, il y a concurrence, il y a des retournements de situation. Donc évidemment que quand on le vit comme ça, c'est très agréable. Mais je comprends aussi le côté très éprouvant pour un championnat où on finit à 40 journées quand on joue les playoff champions, c'est-à-dire deux journées de plus que les cinq grands championnats, les grands championnats qui jouent encore à 20.
Fameuse question donc évoquée par le club de Bruges et ce calendrier. Vous m'y amenez, Christine. Fallait-il adapter le calendrier pour aider le club de Bruges à aller le plus loin possible en Coupe d'Europe et donc le jeudi soir en Conference League?
C'est mon métier aussi, hein, de faire des transitions, David.
Oui, je sais.
C'est pour ça que je vous donne des bons ballons. Hein,
quand vous êtes là, je suis toujours beaucoup plus intimidé.
allez. Alors, mais comment adapter ça aussi? Je vous ai entendu précédemment dans l'émission, mais comment, à part, peut-être décaler d'un jour, mais donc le PAOK notamment, mais voilà, ça ne leur a pas réussi. Le PAOK jouait l'Olympiakos entre les deux matchs, et donc la rencontre a été déplacée puisque l'Olympiakos était encore engagé aussi. Il est toujours d'ailleurs, hein. Oui. Ouais. Et donc, la fille qui présente une émission, mais dont elle ne connaît plus tous les tenants aboutissants.
donc, mais ça nous voilà. Arrive à toutes et tous.
Voilà, mais ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé pour le PAOK, finalement. Mmh. Donc, est-ce que Bruges n'a pas tout intérêt, finalement, à être dans ce rythme très soutenu qu'il leur réussit depuis le début des play-offs, depuis, et malgré les, puisqu'il y a des absents, j'espère pour eux aussi qu'ils vont les retrouver. Ils s'en sont sortis avec 3 suspendus en plus de leurs absents en déplacement en Grèce. Ah, voilà, est-ce que ça vaut la peine de commencer à tournicoter dans tous les sens? Je crois que Barbarac, ce qu'il veut surtout, c'est revenir à une formule classique de championnat, plus que faire déplacer les rencontres. Par contre, l'hérésie, enfin, ça a été placé au 8 mai, c'est qu'était prévu quand même, enfin, est prévu la finale de Coupe de Belgique un jour de demi-finale de Coupe d'Europe. Ça, voilà, c'est peut-être à ça aussi qu'il faut penser.
Hein, et cette finale de Coupe de Belgique en plein milieu du jeu de qui, ouais, Christine, ça, voilà. Voilà, chaque année on le dit, mais alors là, cette année, on se retrouve même le jour d'une demi-finale de Coupe d'Europe. Oui. On aura tout vu.
Mais c'est aussi, juste rapidement, sur la qualité de la saison européenne de Bruges, parce que tout de même, ok, c'est la Conference League, mais il faut arrêter à un moment de la décrier, cette compétition. Parce que d'abord, première édition, c'est la Roma de José Mourinho qui gagne. Deuxième édition, c'est West Ham. Donc, je veux bien, mais les clubs quand même du sub-top, justement, veulent aller la chercher, cette compétition. Et donc, quand on regarde le parcours en 93 de l'Antwerp ou en 92, dernière demi-finale de Bruges en Coupe des Coupes, eh bien, les adversaires n'étaient pas des adversaires de haut calibre jusqu'au stade des quarts, voire même avant la demi-finale. Donc, il y a eu des gros adversaires cette saison pour Bruges. Même en phase de groupe, ils n'avaient pas une phase de groupe simple comparée à d'autres groupes de la Conference League. Ok, sur la phase de groupe, ça peut paraître léger, mais après, tout le monde a envie de la jouer. Hein.
Christine Schreder est en direct sur Vivacité dans ce Complètement Foot avec Clément Tamon, notre consultant à mes côtés. On en vient, on reprend nos bonnes habitudes, Christine, à ce top 3 Complètement Foot, les prestations de nos Belges, de nos Diables Rouges tout au long de cette semaine, de ce week-end. Quels sont vos choix, ma chère Christine?
Mais ça a un peu bougé avec ce qui s'est passé encore ce soir. Hein. Vous parliez de Charles de Ketelaar, mais moi je vais placer en numéro 1 Leandro Trossard. Buteur hier, il en est donc tout de même à, je reprends bien, oui, à 9 buts en première ligue, avec un temps de jeu qui est de 1286 minutes. Donc, on le sait, il n'est pas titulaire en première ligue, c'est pas le premier choix de Mikel Arteta, mais j'ai l'impression tout de même que chaque but, enfin, c'est pas une impression, ça, chaque but est important. Parce qu'au total, ça lui fait quand même 14 buts, parce qu'il y avait tout de même 4 buts en Ligue des Champions, et qui se montre décisif, et donc il reste parfois une énigme, Leandro Trossard, parce qu'il a cette qualité tout de même exceptionnelle de finition, qui est très très intéressante, et qui le sera, je l'espère, à l'Euro. Et donc tout ça pour dire que Martinelli, avec qui il est en concurrence, finalement n'a pas spécialement été au rendez-vous, et qui peut-être que Arteta aurait dû donner plus d'opportunités à Trossard d'être présent dès le coup d'envoi.
Malheureusement, on l'a déjà évoqué quelques fois, Christine, mais voilà, le Leandro Trossard d'Arsenal, on n'a pas toujours l'impression de le retrouver malheureusement en équipe nationale.
Mais je pense qu'il fonctionne aussi à l'affect, sans doute. Il a besoin, on l'a vu, parce que notamment, il y a une belle entente avec des joueurs comme Saka, qui est un des 2-3 joueurs clés. On l'a vu rire, vraiment, sur des buts, avec notamment Saka, par exemple. Donc, je crois que là-bas, il se passe quelque chose et qu'il faut créer ça aussi. Mais de toute façon, ce n'est pas seulement le cas pour Leandro Trossard. Hein. Je pense que Kevin De Bruyne a besoin de gros câlins aussi. Hein. Et que j'espère qu'il sera là aussi à l'Euro. Et qu'on pourra. Et ils sont plusieurs à en avoir besoin.
Oui, c'est vrai. Rudiger l'a privé du demi-finale de Ligue des Champions, mais pas d'une grande compétition avec les Diables. Pas cette fois. Dans la suite de votre top 3, petit clin d'œil si je peux me permettre, la suite de votre top 3, Christine?
Mais Charles de Ketelaar. Pourquoi Charles? Eh bien, puisqu'il marque, il est titulaire, il marque. Il a aussi donc maintenant pas mal de buts. Hein. Il est à combien, lui? Il est à, c'était son septième, hein. Septième en championnat, mais il a passé la barre des 10 buts largement avec l'Atalanta. L'Atalanta qui est engagée en Coupe d'Italie, donc demi-finale retour à suivre contre la Fiorentina, précisément. Donc la Fiorentina a tout de même un calendrier chargé aussi. Et puis la demi-finale d'Europa avec face à Marseille.
Liverpool.
Alors voilà, joli coup, il fait partie de ce groupe, il vit une très belle saison, il a aussi de l'efficacité, c'est un joueur élégant qu'on a envie de voir aussi pour le futur des Diables, bah, dans quel rôle, ça ce sera à définir, mais je pense qu'il peut aussi sortir du banc et apporter, encore une fois, si tous les joueurs qui doivent sortir du banc sont aussi bien considérés et si on leur fait comprendre qu'ils ont un rôle et qu'ils auront un rôle décisif. Et donc pour l'Atalanta, superbe performance. Et d'ailleurs, les Français, je trouve, s'enthousiasment beaucoup autour de Marseille parce que ça va être un solide morceau tout de même de passer l'Atalanta.
Je lève la tête vers le plus français de nos consultants. Il n'a pas bougé. En numéro 3, Christine.
Mais Loïs, hein, Loïs Openda, ouais, qui n'arrête plus de marquer. Hein, donc il est à 23 buts maintenant en championnat d'Allemagne. Il en avait inscrit 4 en Ligue des Champions aussi. Donc normalement, il va passer la barre des 30 buts au total sur sa première saison avec un club allemand. Donc superbe performance aussi. Mais là, je viens de vous parler de 3 joueurs qui ne sont pas des titulaires chez les Diables. Et voilà, on a envie de voir aussi les titulaires. Alors Romelu, performance était belle avec la Roma aussi, un petit peu blessé. On espère que c'est pas trop grave parce que les petites blessures se répètent tout de même pour Romelu Lukaku cette saison.
On croise les doigts. Réaction par rapport à ça pour clôturer.
Christine l'a dit, c'est 3 joueurs qui, en tout cas en club, sont dans un environnement d'expression favorable à leur qualité, mais qui n'arrivent pas encore à prendre le lead en sélection nationale. Et c'est là où toute la difficulté réside, c'est de pouvoir les mettre dans le même genre de disposition mentale, psychologique, d'expression aussi personnelle, technique et physique qui leur permettrait d'être ultra performants en sélection.
Merci Clément Amon.
David, il regarde le Classico. Là,
ouais, c'est perdu, mais c'est 3-2 pour le Real Madrid.
À un moment...
Vous me perdez.
Alors, hein. Oui. Mais à un moment, je vous ai vu prendre la tête. Je me suis
dit. Un fou malade aujourd'hui.
C'est une mauvaise semaine. Je rappelle que voilà, je sais, je vais recevoir des messages. Vous devez être objectif, rester objectif, tout ça. Voilà, il y a du sang catalan dans mes veines et c'est parfois difficile de contrôler cela. Et Clément Amon me l'avait dit. Comme donc en Ligue des Champions, le Barça, voilà, Vinicius qui est. Enfin bon, bref.
À la fin,
il y a un nouveau jeu pour.
Je vous comprends, hein.
Modric fait Koh-Lanta parce que le totem d'immunité, il l'avait encore une fois ce soir. Je vous embrasse, Christine. Je ne vous embrasse pas, Clément. Dans un instant, le journal de 23h. Bonne soirée, bonne nuit, tout le monde.
Bonne nuit.
Pour ne manquer aucun podcast RTBF Sport, abonnez-vous. Nos podcasts sont disponibles sur rtbf.be/ovio ou via votre application podcast.
Retrouvez tous les podcasts de la RTBF, dont de nombreux inédits, sur RTBF Ovio.